Voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Autour de moi, et vous êtes de plus en plus nombreux à les écouter, Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Kerrou et Charles Villeneuve. Nouveau déplacement de Valérie Pécresse. La candidate de la droite est à Samos, dans un camp de réfugiés en Grèce. Hier, elle était à Athènes, où elle a défendu l'Arménie, toujours en conflit avec l'Azerbaïdjan. Valérie Pécresse, qui a connu au tout début de la semaine une fuite en avant de Guillaume Pelletier, rallié à Éric Zemmour, ce qui a beaucoup fait rire Marine Le Pen, s'amusant des changements réguliers de crèmerie de l'ancien LR, passé par Dupont-Aignan ou encore le FN. Mais au-delà du cas unique Pelletier, n'est-ce pas une partie de la droite, considérant que Valérie Pécresse n'est pas assez droitière, qui risque de suivre ce même mouvement, Charles Villeneuve ?
Moi, je ne le crois pas. Si vous voulez, Pelletier, d'abord, ce n'est pas Ciotti. En plus, sa défection était prévisible. Ça faisait au moins 5 mois, 6 mois qu'il avait perdu sa place de numéro 2 et qu'il était en rupture de banc. Donc, c'était assez prévisible. En plus, il ne pèse pas le poids qu'il pense peser. D'ailleurs, vous savez très bien ce qu'il a fait, puisque Christian Jacob porte plainte devant la CNIL, c'est-à-dire ce qui régule sur le plan informatique les listes, pas seulement des candidats, mais surtout des membres des Républicains, du parti. Il a envoyé un courrier à tout le monde. Donc, et puis, je voudrais, si vous voulez, c'est quand même une prise de guerre, à relativiser et qui a toujours lâché ses champions. Il ne faut pas l'oublier, ça. Jean-Marie Le Pen, Laurent Wauquiez, Xavier Bellamy. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand il avait lâché ce que j'appelle ses champions, Éric Zemmour l'avait alors qualifié Pelletier de traite de comédie. Bon, on a oublié tout ça, évidemment, les temps changent. Mais voilà.
Gérard Carreau.
Écoutez, moi, je voudrais faire une réflexion qui est une réflexion globale sur les trois candidats ou candidate de la droite. Et je vais le faire en vous chantant. Tout à l'heure, tu nous racontais une petite histoire intéressante sur le pharmacien. Là. Moi, je vais vous chanter une petite chanson, parce que je vais vous très courte.
Comme Stromae, alors.
La petite chanson, c'est « Three blind mice, three blind mice, see how they run ». Les trois petites souris aveugles. Tous les gosses américains ou anglo-saxons la connaissent. Eh bien, j'ai l'impression que ces trois candidats, c'est les trois petites souris aveugles qui courent dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'elles ne voient pas le réel. Et le réel, c'est que tous les sondages publiés ces derniers mois donnent une addition des trois candidates, et éventuellement, si on y rajoute un ou deux candidats subalternes, style Dupont-Aignan, on arrive autour de 50, entre 45 et 50 %. Dans toutes les démocraties, quand on a un capital de 45 à 50 %, on se dit « ça y est, on va gagner ». Or, tout le monde, en même temps, pronostique que la droite va... Enfin, tout le monde, non, mais beaucoup de gens pensent que la droite va perdre. Pourquoi ? Malgré cette addition somptueuse de 45% total. Eh bien, parce que les trois petites souris sont aveugles et qu'elles continuent à agir et à voir le barrage que Mitterrand avait créé autour du Front National, c'est-à-dire on ne peut pas s'allier avec... Et du coup, il y a à la fois, elles font une course intéressante pour certains d'entre elles ou d'entre eux, en donnant un certain nombre de propositions, mais elles ne voient pas le fait principal, qui est qu'elles ne font aucun pas, les trois candidatures ne font aucun pas vers une possibilité d'alliance d'une manière ou d'une autre, ou de pacte électoral à la manière de celui des communistes et des socialistes dans les années 70.
Les boucliers sont ouverts, c'est ce que je disais.
Voilà.
François Mitterrand connaissait ses classiques. Que dit-on de la droite
ans, ça marche.
Que c'est la plus bête du monde, la droite française.
Catherine.
Oui, mais c'est vrai que la droite est majoritaire. Il y a trois droites. Il faudrait que René Raymond refasse ses analyses. Mais ce qui est la seule question que se pose la droite, c'est, bon, maintenant on est à peu près sûr que le président sera candidat et même sera qualifié pour le premier tour, c'est qui va arriver derrière lui. Si c'est Madame Pécresse, elle a des chances de l'emporter parce qu'une partie des gens de la droite, et même y compris celle de Zemmour, y compris celle de Madame Le Pen, ne voudra pas encore donner une nouvelle fois des chances à Emmanuel Macron. Si c'est Madame Le Pen, eh bien là, une partie de la droite LR votera pour Macron. On le sait. Elle préférera ça.
Oui, c'est pour ça pas... que...
Et si c'est Zemmour, c'est une option qui est envisagée dans son camp, mais je vois bien qu'il n'est pas encore tout à fait envisagé dans les questions à droite. Parce que je pense qu'en ce moment, moi je le sens comme ça dans les conversations, j'ai peut-être complètement tort, il y a une petite désaffection. Oui. Et surtout, vous voyez, quand on parle de Guillaume Pelletier, ben, chez les LR, on dit « mais bon débarras
oui, ». Oui, oui.
Et quand même, qu'il est aujourd'hui comme allié un peu visible, à la fois Patrick Buisson, qui n'est pas un attrape-électeur vivant, et monsieur, et le député, l'ex-député de Vendée, j'arrive...
Oui, Philippe de Villiers.
Oui, merci de me rappeler son nom. C'est quand même pas non plus des aspirateurs à voix, tout ça.
Des alors, aspirateurs à voix.
Moi, je suis en désaccord. Je suis en désaccord fondamental avec Gérard.
Je pense ça que... me fait plaisir, en général.
Mais non, mais c'est ça qui
je
est bien.
Je pense qu'il y a une vraie différence entre une droite dite de gouvernement et une droite qui ne l'est pas ou qui ne cherche même pas tellement à l'être. Je veux dire qu'entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen, il y a quand même un abîme, parce qu'il y a la retraite à 60 ans pour Marine Le Pen, une sorte de populisme pour elle, et il n'y a pas ça pour Valérie Pécresse. Pécresse. Et pourquoi est-ce qu'on se dit que Valérie Pécresse a des chances, si elle arrive en numéro 2, de pouvoir avoir un débat, en tout cas, intéressant avec le président de la République? C'est parce que, quand même, c'est une tradition, un courant politique qui s'inscrit près du pouvoir et avec le pouvoir. Eh bien, moi, je ne crois pas qu'il y ait, de toute façon pour les gens, une alliance possible entre Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse.
Michel.
Je pense que Valérie Pécresse, dans ce cas-là, aurait ou une partie de ses électeurs qui s'évaderait vers Macron, ou une partie des électeurs, effectivement, qui irait sur Marine Le Pen ou sur Zemmour.
Michel,
ne
un
me,
mot,
ne
mot
me dis pas qu'il y a un grand unité, non, une non, grande unité de la droite depuis Zemmour.
Je comprends, la gauche a tout intérêt à ce que le barrage mitterrandien continue et qu'aucune porosité
ne se passe. Non, mais écoute, il ne s'agit pas de gauche
que je veux
ou de
te
droite.
Dire, ce que je veux rappeler, c'est à nos auditeurs...
Je parle de la droite de gouvernement, c'est rien à voir.
Je veux rappeler à nos auditeurs le fossé extraordinaire qui existait dans la France des années 70-80 entre un parti communiste encore stalinien qui cautionnait par toutes ses initiatives ce qui se passait en URSS et un parti socialiste qui était en train d'essayer de se renouveler, de sortir. Et quand ils ont fait les pactes électoraux, est-ce que ça voulait dire qu'ils allaient fusionner ensemble? Pas du tout. Ils s'étaient dit, et c'est là l'astuce géniale de François Mitterrand, c'est de dire on n'arrivera jamais au pouvoir si nos électorats ne se rassemblent pas au deuxième tour. Les électorats. Eh bien, il a réussi son pari. Et moi, je dis que la droite va disparaître. Parce que si la droite de Pécresse, par exemple, n'est pas au deuxième tour, eh bien, il n'y aura plus de parti des Républicains. Ah, c'est donc vrai. Le dernier acte pour la droite, où elle comprend ce que je viens d'expliquer, ou elle ne le comprend pas.
Et bah, là, elle vous entend pas, elle est sur un...
Non, mais je parle des électeurs.
Si Valérie Pécresse le comprend, ce serait d'une certaine façon... Perdre son âme et perdre l'argument moral.
Il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme.
Ça, c'est Michel Noir, et d'ailleurs, il a
tout perdu.
Il a pas survécu.
Ces trois droites, à l'heure actuelle, qu'on vient de décrire longuement, tous les leaders de ces trois droites sont à la recherche de leur deuxième souffle. Et ça, c'est un fait à l'heure actuelle.
Absolument.
Eh bien, on va parler maintenant de la gauche dans quelques instants. 7h à 1, ce sont les grandes voix. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. À tout.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve. Et puisqu'on a beaucoup parlé de Valérie Pécresse, sachez qu'elle sera l'invitée d'Europe 1 à 8h13 ce lundi dans la matinale avec Sonia Mabrouk. Nous sommes avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta à gauche, celui qui nous faisait, il n'y a encore pas si longtemps que ça, une nouvelle version du téléphone pleure, serait sur le point de raccrocher. Arnaud Montebourg pourrait céder face à Christiane Taubira. Pourquoi elle? Parce que c'est elle finalement qui pourrait rallier le plus de voix à la primaire populaire. Mais alors, qui représente la gauche aujourd'hui quand on sait que Mélenchon et Jadot n'iront pas à cette primaire? La gauche dans son ensemble comptabilise 25%. On va où comme ça, à gauche, et Michel Cotta?
Alors, je reprendrai l'histoire des petites souris, peut-être.
Ah, d'accord.
Là, alors, il y a encore plus que trois petites souris.
Ça va faire jurisprudence.
Il y a encore plus que trois petites souris. Alors, donc, Christiane Taubira. Pourquoi Christiane Taubira? Et c'est vrai que moi, je faisais partie des gens qui me disaient, bon, enfin, elle a quand même un peu disparu de l'univers politique. Pourquoi est-ce que d'un coup... Eh bien, parce qu'elle représente... J'ai interrogé pas mal de jeunes. Elle représente d'abord l'ennemi numéro un de la droite. Et... Catherine ne va pas dire le contraire. Elle représente le combat pour la lutte contre l'esclavage. elle représente le débat sur le mariage gay, qu'elle a mené, c'est un débat politique qu'elle a beaucoup mené, donc finalement, et en plus une femme noire. Donc on a l'impression que pour une grande partie de la gauche, face à cette espèce de désordre qu'est Anne Hidalgo, plus les uns, les autres, Jadot et Mélenchon, qui ne veulent pas aller à la primaire, qui n'existe pas. Ouais. La primaire, je veux dire que l'électorat de la primaire tel que la demande Christiane Taubira, c'est elle qui l'a fait, l'électorat de la primaire. Donc elle est sûre, et de toute façon, presque personne d'autre qu'elle ne se présente, et Arnaud Pontebourg se désiste pour elle. Donc c'est pas encore dit.
Mais c'est pas
des souris.
Ouais.
Enfin, de toute façon, qu'il se désiste ou pas. Oui. Il a 0,5, il n'a pas d'argent, il n'a pas de parrainage. Enfin, bon, il n'a pas de parrainage, on pourrait beaucoup parler de ce que représente quand même Arnaud Montebourg. C'est-à-dire pas grand-chose. Bon, il y a en plus le Parti communiste, il y a en plus des différences majeures entre ce que pense par exemple le Parti communiste sur le nucléaire et ce que pense naturellement Jadot. Bon, donc Christiane Taubira peut avoir une espèce de répercussion, elle peut avoir. Mais enfin, elle avait dit « je ne serai pas une candidate de plus », elle sera une candidate de plus. Donc une souris de plus.
Catherine Ney.
Oui, bon, mais je veux dire que quand on pense à elle, on se dit dans le fond, vous savez, aujourd'hui, pour être candidat à la présidentielle, ça veut dire quelque chose. Parce que il faut être aveuglé par sa propre personne. Il faut avoir, être entêté à l'idée de son destin, s'offrir, avoir une vision de soi-même surdimensionnée. Parce qu'admettons qu'elle soit dans la course, combien peut-elle recueillir avec tous les atouts que Michel a énumérés? 8-10%. Ça serait formidable par rapport à ces 2% d'il y a en 2002 où elle a concouru à faire battre Jospin. Mais elle en fait quoi? Elle en fait quoi? Ça, bon, et je pense que sa candidature, qui est quelque chose, va plutôt concourir à défaire encore plus la gauche. Ouais. Qui est déjà en miettes.
Gérard Carrérou.
Moi, je pense que Taubira va se présenter d'ici 10 minutes, puisque c'est dans 10 minutes qu'elle a donné rendez-vous à nos confrères à Lyon. Je pense qu'elle va dire qu'elle est candidate à la primaire de la gauche. Les primaires, c'est-à-dire une espèce de bricolage tout ça étant des apparences.
Mais
elle va gagner dans cette bataille donc, de cette fausse primaire, mais qui aura lieu quand même d'une certaine manière. Elle va sûrement arriver en tête. Elle sera une candidate de plus. Et là où, si vous voulez, ça peut être quelque chose, certains diront, la version optimiste, c'est de dire, bon, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui donnera un peu de peps à la campagne de la gauche. Effectivement, quand on voit dans quel état, dans quel marécage se trouve la campagne de la gauche avec Madame Hidalgo, etc., on se dit qu'effectivement, elle ne peut, de ce point de vue, au moins de ce point de vue de la parole, qu'élever le débat. Mais ce que je redoute le plus, c'est qu'elle soit une porte-parole. Vous avez très bien dit, Michel, tu as très bien dit, les cases qu'elle va cocher. Et elle va cocher notamment celle du racialisme et du wokisme et de tout ce qui est cette nouvelle apparition de la gauche qui est épouvantable aux États-Unis, et croyez de quoi je parle, qui est en train de gangréner et même d'empêcher la présidence de Biden parce que ce parti démocrate américain est gangréné par ça. Eh bien, elle est ça en France. Et si elle fait ne serait-ce que 5% ou 7%, c'est désastreux ne serait-ce que pour ça.
Charles Villeneuve.
Oui, alors moi, ce qui m'intrigue le plus, tout a été dit par mes camarades sur Taubira, et je ne suis pas un spécialiste de la biographie de Taubira, c'est que l'électorat de gauche n'a pas disparu, il est important. Il se répartit autrement. Il faut quand même se dire qu'il existe un maillage impressionnant, important, d'élus locaux de gauche. Quand vous regardez la carte municipale qui tient une grande partie des grandes villes, c'est la gauche, c'est l'électorat de gauche. Oui. Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lille, Strasbourg, c'est énorme. La gauche souffre de 3 faiblesses, manifestement, qui fait d'abord qu'elle n'a pas de leader, comme l'a été François Mitterrand ou comme d'autres, dans cette République française. Ou d'autres, évidemment, leaders de droite, comme Jacques Chirac, comme De Gaulle, etc., etc. Et il y a un émiettement, simplement, des partis, pas de l'électorat, des partis de gauche, incapables de construire une démarche commune. Ils sont incapables. Divergences de fond importantes sur le communautarisme, pas de programme commun, et puis l'absence de leader incontesté.
Oui,
mais l'électorat de gauche n'est pas mort.
Ce qu'aurait pu être Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon était Michel le seul à pouvoir, à un moment donné, être un rassembleur, eh bien, c'est un diviseur.
C'est un diviseur et il n'a pas ses signatures.
Catherine
Ney. Puisqu'il
a fait appel à Larcher, le président
du déclin de la droite de gouvernement, si jamais, justement, la droite perd, et donc disparition, à peu près, quand même, de ce qui reste du Parti gaulliste, on peut dire la même chose du Parti socialiste. Parce que si, après cette élection, Anne Hidalgo a fait la preuve qu'elle avait la moitié de voix de moins qu'à la dernière élection présidentielle, c'est une catastrophe pour le Parti socialiste, et notamment pour les élus locaux qui, quand même, restent importants, et à droite et à gauche. Donc on a le même phénomène à droite et à gauche, du risque de disparition et du Parti socialiste et de
des
LR, au détriment d'un...
De nouvelles forces politiques
Non, mais il y a... On ne voit pas arriver cette force politique-là.
Ben oui,
en tout cas, s'ils ont disparu, ils restent très importants localement et ils disparaîtront nationalement. C'est une situation très, très difficile.
Oui,
très
mais les radicaux de la Troisième République ont connu un peu cette situation. Oui. Ils étaient extraordinairement implantés dans les départements de la France et dans les villes de la France. Et puis, quand est arrivé le choc, effectivement, du gaullisme, tout ça a sauté. Et on a dit, au moment de l'élection de Macron, il y a 5 ans, on a dit, c'est un début de recomposition. Effectivement, ce que tu dis est juste sur la gauche aussi bien que sur la droite.
Oui. Mais en entendant Charles, ce qui est criant, c'est que tous ces maires, qui sont des maires de villes très importantes en France, on ne les entend pas. On ne les entend pas du tout.
Quand on entend les maires écologistes,
on regrette
de les entendre.
Mais il y en a une qui est formidable, par exemple, Carole Delga, qui est la présidente de la région d'Occitanie, Eh bien, cette femme, elle est formidable et on ne l'entend jamais dans le national.
Mais elle soutient. Elle soutient Anne Hidalgo et elle se tait parce qu'elle voit que c'est un désastre aussi. Parce que vous venez de parler de Mitterrand. Qui a su très bien faire venir les communistes pour mieux les enterrer. Enfin, c'était vraiment un grand stratège, mais il avait de la bouteille, de l'expérience qui avait commencé depuis la 4e République. Il avait tout connu. Et donc, pour qui est encore qui a la nostalgie de Mitterrand ? Mais c'est une douleur de se voir représenter il y a 5 ans par Benoît Hamon, qui a fini à 6%, et encore plus par Anne Hidalgo. Mais c'est terrible, parce qu'elle est très mauvaise. Je veux dire, la différence, dans le fond, et ce qui est terrible pour elle, c'est que si Mme Taubira arrive, mais elle est bonne. Comme dit François Hollande dans son livre, elle est lumineuse, elle a du bagou, tout ce que n'a pas Madame Hidalgo. Mais là, le Parti Socialiste a honte, c'est d'avoir donné l'investiture à Madame Hidalgo. Quand Bernard Cazeneuve a dit qu'elle était formidable, qu'il lui a ciré les pompes, c'était de la langue de bois, il n'en pensait rien. Vous voyez, le problème du PS, c'est le leadership.
Merci à vous les grandes voix, merci Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. C'est à vous mon cher Laurent Mariotte, bonjour.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix. Bonjour. Tout le monde va bien ?
Mais oui,
ah, oui bonjour. Bah oui, alors c'est vrai, il fait froid, alors on va se réchauffer avec de belles cuissons en croûte, croûte de sel, de pain d'argile, on va emmailloter, vous allez entendre, et puis Michel Jonas nous rejoint à table vers 11h30. À tout de suite.
À tout de suite.